France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
Léon Werth, c'est cet homme qui a vu clair avant les autres, qui a osé et qui a dérangé. 50 ans après sa mort, Léon Werth sort enfin du purgatoire où l'avaient relégué les bonnes consciences. Profil perdu, noyé dans la cohorte des écrivains de second rang, Léon Werth est l'ami à qui est dédicacé le petit prince de Saint-Exupéry. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. Léon Werth fut autrefois, au début du XXe siècle, un éreinteur de qualité dont, disait Varlieri Larbeau, les sorties furibondes contre la sottise et le mensonge faisaient trembler ses contemporains. Cet homme irascible, intègre, farouche, tour à tour défini comme un derviche hurleur ou un chardon, fut de tous les combats. Antimilitarisme, anticolonialisme, antistalinisme. Mais, au-delà des courants de pensée, des prises de position, c'est une remarquable indépendance d'esprit qui se manifeste dans ses ouvrages. Sur la guerre, Léon Werth a écrit parmi les plus belles pages et les plus lucides de la littérature. Avec Clavel soldat et Clavel chez les majors, paru en 1919, il propose un regard d'une grande acuité sur la peur, l'ennui, les bassesses, la boucherie de 14-18. Son chef-d'œuvre, Déposition, Journal de l'Occupation, paru en 1946, laisse éclater la lucidité de cet homme reclus dans le Jura, qui voit et comprend avant tout le monde la vulgarité de ceux qui ont donné des gages à la conspiration de l'imposture. Une vie, une œuvre, Léon Werth, une émission signée Catherine Poinbert et Gilles Davidas.
Mais justement, un extrait de lettre de Claude Aveline, daté de 1947. Vous pouvez peut-être nous la lire.
Vous ne vous êtes pas contenté de vivre votre temps, ce temps noir et lumineux à la fois. Vous l'avez pensé. On ne pourra pas en écrire l'histoire spirituelle sans recourir à un tel témoignage. Merci de l'avoir soigné. Songez à me l'offrir.
Pourquoi censure sur Werth ? Pourquoi ce bétonnage, mais incroyable, mais très intéressant pour l'histoire de France. Il a tous les défauts par rapport à une vision falsificatrice de l'histoire.
L'homme de ce siècle se perd dans une inextricable économie, dans une poésie stupidement hermétique, dans une science séparée de lui.
Une vie, une œuvre, Léon Werth, une émission de Catherine Poinbert.
Bon, comme on a un énorme sac là qui nous attend, qu'on va ouvrir, on regarde le sac, d'accord.
Bon, mais Claude, il faudra qu'on range. Quand on a un boulot après, quand tout ça va être fini.
Vous allez tout trier, c'est ça ?
Des années, on aura pour des années. Mais je ne comprends pas pourquoi cette lettre de Rodin qui est adressée à Mirbeau a échoué chez toi.
Qui c'est ça ?
Mirbeau, ça c'est essentiel par contre, parce que sans Octave Mirbeau, les débuts littéraires de Léon Werth ne se seraient pas faits de la même façon. Il l'a beaucoup, beaucoup soutenu.
Oh ben, il l'a beaucoup soutenu, et puis même s'il n'a pas eu le prix Goncourt en 1913, le fait d'avoir été soutenu par Mirbeau et d'avoir été très longtemps à égalité avec Alain Fournier, ça a fait une réputation, parce que ça a été expliqué dans les journaux, tout ça.
Bon, alors on l'ouvre, ce sac ?
Mais oui, bien sûr.
Vous voulez que je l'approche ? Et puis vous allez le...
On va le mettre sur la chaise.
Mais asseyez-vous, comme ça, ça sera... Non, mais asseyez-vous, puis on va sortir les... Voilà. Vous permettez que je sorte les classeurs,
oui,
je peux ?
Bien sûr.
Louis Jouvet, qui lui écrit de la Comédie des Champs-Élysées. Mon cher.
Il se connaissait peu et il se tutoyait parce que c'était comme ça. Non, pas tellement. Il se voyait au théâtre essentiellement. Et tous les gens se tutoyaient.
Oui.
Paul Léoto.
Ah, d'accord. On peut regarder ?
Ah, ouais. Il faut regarder.
Il y a une belle écriture, Léoto. Il y a deux lettres. Alors ça, c'est daté de 22. J'ai tenu à lire... Oh là là, il a... c'est beau, mais alors c'est pas lisible.
Oh, moi, c'est...
C'est une très très belle écriture, mais alors totalement illisible. C'est magnifique. Très régulière.
La loupe, oui, vous regardez, elle est derrière, là. Sur, voilà.
Ah, voilà. Tenez. Ben, je vais vous laisser. Non, non, je vais vous laisser.
Mais moi, je ne suis pas très.
Il n'est pas doué.
Ah, oui, mais c'est pire.
C'est pire.
Ça, ça fait petit machin.
Cinquante ans après sa mort, l'écrivain et critique d'art Léon Werth sort enfin du purgatoire. Parce qu'il avait vu juste, compris vite et noté sur le champ ses impressions, parce qu'il a été un témoin actif de cette première moitié du XXe siècle traversée par deux guerres mondiales, son œuvre est restée en souffrance depuis sa mort en 1955. Étonnante plongée dans la mémoire pour son fils, Claude, qui a le bonheur de voir republier les livres de son père et qui se livre dans sa maison musée d'Issoudun à la pêche aux souvenirs.
Barbus, il y en a beaucoup.
C'est émouvant hein, d'ouvrir ces vieilles lettres. Ah, il lui parle d'un de ses livres. Je vous laisse lire.
Ah oui, mais je viens de lire votre... extraordinaire livre, je pense. Ou admirable. Votre admirable livre. J'ai été... Mais ils sont embêtants d'écrire si mal.
Une phrase de René Char lui convient parfaitement. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Léon Werth, c'est cet homme qui a vu clair avant les autres, qui a osé écrire ce qu'il voyait et qui a dérangé. On n'a pas le droit d'être lucide à ce point, de bousculer les certitudes, les conventions, les conforts mous. Antimilitariste qui fait la guerre de 14, mais refuse d'applaudir avec les foules en liesse en 1918 parce qu'il sait que cette guerre n'est pas finie, anticolonialiste qui s'insurge contre la domination, stigmatise les coloniaux, ces caricatures d'Européens, et a honte d'être blanc, c'est aussi celui qui, depuis sa grande solitude de juif reclus dans le Jura, observe et témoigne des années d'occupation avec une rare clairvoyance. Léon Werth, c'est cet homme qui se cogne au plus haut problème, comme il l'écrira dans la préface de Déposition. Cet homme qui, le 10 octobre 1940, note « J'ai tout loisir pour m'occuper de mon moi. Jamais je n'ai eu aussi complètement un moi à ma disposition. » Je n'en abuse pas. Un moi, ce n'est pas grand-chose à soi tout seul. C'est cet homme qui a mal à la civilisation et qui se demande s'il va crever de ce mal.
Je rédigeais des articles pour une revue de publicité. Je fus secrétaire de rédaction d'un journal d'alimentation. Je gagnais de quoi vivre 2 jours, 8 jours, quelquefois 15. Et chaque fois, il fallait franchir les intervalles sans besogne et sans pain, où l'on ne sait pas s'il faut aller chercher du travail ou se coucher pour faire durer un jour de plus les souliers qui se coupent ou qui baillent. Puis, je fus journaliste pour de bon. J'interviewais des assassins, des victimes, des grues, des escrocs, ce qui m'était égal, des acteurs et des hommes de lettres, ce qui me répugnait. Une année, j'interviewais tant d'assassins que je pus aller passer un mois de vacances au bord de la mer.
Regardez, le premier roman qui fait paraître, donc 1913, La Maison Blanche, c'est L'homme face à la maladie et face à l'hôpital. Donc c'est une question d'une actualité évidente.
Gilles Ray.
En 1919, il fait paraître Clavel soldat et Clavel chez les majors. C'est L'homme dans la guerre. La solitude, la peur, la violence, la barbarie, là aussi c'est un thème d'actualité. En 1932, il va écrire Cour d'assises, une série de reportages sur la correctionnelle et les assises. On dirait du Depardon, quand on le lit. Hein. En 1926, il va en Cochinchine et il prend fermement position contre toute forme de colonialisme. en expliquant que, et là on retombe dans un débat, mais alors vraiment d'actualité, sur les fameux bienfaits ou aspects positifs du colonialisme, il explique que 100 000 ponts ou 100 000 voies ferrées ne justifieront jamais le massacre d'une population. Quant à des positions, c'est un livre sur toutes les propagandes. Et là encore, c'est d'actualité. Et c'est un... Bon, il avait écrit dans Europe toute une série de critiques cinématographiques. Alors là, bon, on peut être un petit peu critique dans la mesure où, manifestement, il a loupé quelque chose, quoi. Il n'a pas vu tout le processus culturel qui s'enclenchait avec le cinéma. Mais en même temps, il a décrypté toute forme de propagande, que ça soit la propagande par la radio, la propagande par l'image et la propagande par le texte ou les journaux. Et ça, c'est malheureusement encore d'actualité.
Léon Werth, c'est une étonnante absence de 50 ans. Je veux dire, Gilles Le Ray, que depuis sa mort en 1955, cet écrivain qui a été à la fois romancier, journaliste, critique d'art, a été totalement oublié, et ce, dans tous les domaines d'activité et d'écriture qui ont été les siens. C'est assez étonnant.
Ben, c'est d'autant plus étonnant que dans des livres où il pourrait être mentionné, par exemple dans les index des histoires de la presse, il ne figure pas. Sauf, à ma connaissance, dans le volumineux volume 3 de l'Histoire générale de la presse française, qu'avait rédigé Pierre Albert. Donc là, il est mentionné parce qu'il a été journaliste, rédacteur en chef, de 1902 à 1900, un peu après-guerre. Mais les autres histoires de la presse ne le mentionnent pas, et puis les histoires de la littérature non plus. Alors c'est curieux parce que, par exemple, un auteur comme Henri Calais, lui a été redécouvert il y a une vingtaine d'années et maintenant il est vraiment le symbole d'un écrivain journaliste qui écrit d'une façon extrêmement précise, dont les phrases sont courtes et en même temps pleines de sens. Et en revanche, bon, Léon Werth, lui, il est passé à la trappe.
Mais d'une certaine façon, on pourrait dire, Gilles Le Ray, c'est un peu cruel que c'est la dédicace de Saint-Exupéry, du Petit Prince, qui a valu à Léon Werth une certaine notoriété.
Oui, ben, il est connu de, peut-être quoi, centaines de millions de lecteurs, hein, et personne ne l'a jamais connu. Alors, il y a deux personnages, hein. il y a Saint-Exupéry et le Petit Prince, et puis Léon Werth, c'est un ami lointain, qui apparaît de façon extrêmement forte dans Lettre à un otage. Mais bon, il faut faire l'effort de lire Lettre à un otage, mais quand on lit Lettre à un otage, c'est véritablement une lettre d'amour et d'amitié qui est tout à fait poignante. Comment Saint-Exupéry, qui est aux États-Unis, décide d'écrire cette lettre à Léon Werth en disant « Léon Werth, je pense à vous, Léon Werth, je m'inquiète de votre sort ». Et puis finalement, le manuscrit sera biffé, il va enlever à chaque fois le nom de Léon Werth, parce qu'il aura peur qu'une fois publié en France, Léon Werth ait des ennuis à cause de ça. Donc là encore, c'est une lettre d'amour et d'amitié, avec un nom qui a été biffé.
Ça, c'est un japonais, sûrement.
Oui, Haruo Takamashi.
Oh ben les japonais. Cinglé de Saint-Exupéry, hein, ça c'est.
Vous l'avez bien connu, Saint-Exupéry.
Oh, je l'ai connu, oui, depuis l'âge de 10 ans jusqu'en 1940.
Oui, parce qu'on vous voit souvent en photo à ses côtés.
Il venait, oui.
Oui.
Il venait dans le Jura et puis on le voyait rue d'Assas. Il y a pas mal de ses dessins qui sont sur mes cahier d'écolier, les grands cahiers à grandes cases. Si, c'était important. Il était tout de même impressionnant. Et puis, j'ai volé dans son avion.
Ah.
Il m'a emmené près, dans le Jura, justement près, parce qu'il avait une maison d'enfance, près d'Ambérieu, en Bugey. Et puis, il m'a dit, tiens, est-ce que t'es déjà volé ? Je lui ai dit, non. Eh bien, on va y aller. Et on y a été avec le Simoun, on a fait un tour autour de sa propriété. C'était quand même, en 35, ça faisait de l'effet quand même.
Ah oui, un baptême de l'air avec Saint-Exupéry, c'est pas mal. Alors dites-moi, comment ils se sont rencontrés tous les deux, Léon Werth et Saint-Exupéry?
Alors, ils se sont rencontrés chez René Delange, qui est un journaliste qui était à Excelsior ou à l'Intransigeant à l'époque, je ne me rappelle plus. Et René Delange lui a dit, je vais vous inviter avec un aviateur, etc. Et puis, mon père a dit, oh, il est pris féminin, il va être rasoir. Alors, ils ont dîné ensemble, ils ont dû beaucoup parler, et en bas, la conversation s'est poursuivie pendant plusieurs, peut-être pas heures, mais beaucoup de temps sur le trottoir. Et ils se sont revus comme ça. Je crois que ça a été très rapide, le choc entre eux.
Saint-Exupéry ose le naturel au sublime et contraint le sublime au naturel. Que d'apparents contrastes en lui. Il joue avec un animal, avec un enfant, avec un cornet à dés, avec un système. Il goûte l'horreur d'un pauvre beuglant, d'une boîte à monstres, et il vit Platon dans une baraque de l'aérodrome de Dakar ou de Cap-Juby. Les chromosomes, les gènes et la théorie des quantas sont sanscrits pour lui. Il aime les chansons du XVIe siècle, il est à l'aise dans l'espace entre les planètes et dans le plus bistrot des bistrots.
À Léon Werth. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Werth quand il était petit garçon.
Je crois que c'est là où le Saint-Exupéry de 1925 préfigure vraiment le Saint-Exupéry de 1938 ou de 1939. Je crois que c'est dans la qualité de son humour poétique. En voici deux exemples. De Perpignan ou de Toulouse, ça je ne me rappelle plus, il l'écrit. J'ai passé ma journée à acheter des allumettes, des cigarettes et des timbres. La buraliste d'à côté d'ici est si jolie. J'ai déjà dans ma chambre plus de 30 boîtes d'allumettes et des timbres pour 40 ans. Et ceci, daté de Perpignan. Les mercières débitent pour 3 sous de fil et 2 sous d'aiguille. Elles n'ont aucun espoir d'hispano. Elles passent leur vie contre le rideau des fenêtres, en rideau en dentelle. Mais la chute est d'un ton plus grave. Toute leur vie, ajoute-t-il, est faite d'habitude. Les habitudes, c'est une telle prison, j'ai tellement peur des habitudes.
Pour ce qui est de la littérature, Gilles Le Ray, Léon Werth fait ses débuts dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Et son grand modèle littéraire et son mentor également, c'est Octave Mirbeau. Comment se sont établies les relations entre les deux hommes ?
Ils se sont connus certainement au tout début des années 1900. Et Mirbeau a été séduit par ce jeune homme qui était un rebelle, qui était... rétif à toute forme d'administration, à toute forme de contingence, à toute forme d'obligation. Bon, Mirbeau a été son mentor, vous avez raison de le souligner, parce que c'est lui qui l'a introduit dans le milieu des journaux. C'est curieux d'ailleurs, parce que Léon Werth s'est toujours méfié des journalistes, du monde des journaux, du monde de la presse. Il a été extrêmement virulent et critique, en vitupérant constamment contre le monde des journaux, et Mirbeau pareil, mais Mirbeau avait écrit plus de 1000 articles, et Léon Werth a finalement été journaliste du début des années 1900 jusqu'à sa mort pratiquement.
Mais Mirbeau a retrouvé chez Léon Werth à la fois l'esprit anticlérical, opposé à la bourgeoisie, au code de bienséance, et ça, ils avaient ça en partage tous les deux.
Oui, tout à fait. Alors, c'est le côté un peu 19e siècle de Léon Werth. Mais il aurait pu en rester là. Il aurait pu rester comme Mirbeau ou devenir une sorte de Léon Blois, anarchiste de gauche. Mais... Pourtant, quand on lit ces articles dans Paris Journal ou dans Gil Blas, on sent qu'il y a une dimension supplémentaire. Et on va s'en rendre compte, notamment avec Clavel Soldat, qui n'est pas du tout un livre de la veine de Mirbeau, et surtout dans les romans qui vont suivre dans l'entre-deux-guerres.
Il est parfaitement vrai que les livres de France et de Mirbeau ne constituent plus ce qu'on pourrait appeler des faits de journalisme. L'actualité s'est emparée voracement de la littérature, mais que la critique... ne s'occupe plus de France et de Mirbeau, est-ce que ça signifie qu'il n'est plus de lecteur? Voyez-vous, tout cela, je crois, est trop simple. Racine, Bossuet ou même Stendhal ont-ils beaucoup de lecteurs? Moi, je pense que les rapports de la littérature et de la critique sont les mêmes que les rapports de la politique telle qu'elle se fait et de sa projection dans les journaux. Il faut beaucoup de candeur ou de perspicacité pour y trouver sa vie. Quand je connus Mirbeau, il avait à peine dépassé la soixantaine. Mais sa santé était devenue délicate et il payait d'une lourde fatigue le moindre effort physique ou le moindre travail. Ceux qu'il avait connus dans sa jeunesse le comparaient souvent à un lion blessé. On imaginait mal, en effet, sous son apparence douce et lassée, l'écrivain à l'invective puissante qui avait, partout où il se cognait à lui, poursuivi le crime du politique qui est l'injustice, le crime de l'artiste qui est l'académisme. Avec la même puissance, vous le savez, n'est-ce pas, avec la même violence, il imposa des écrivains ou des artistes que le grand public ou le boulevard refusait d'accueillir. C'est lui qui lança dans la gloire Maeterlinck et Rodin, c'est lui qui apporta à Fasquelle le manuscrit de Marguerite Audoux, Marie-Claire.
Le premier roman de Léon Werth, Gilles Ray, qui est préfacé par Octave Mirbeau, hein, c'est La Maison Blanche qui paraît en 1913. Enfin, on dit roman, mais à vrai dire, ça n'est pas à proprement parler un roman.
Ça n'est pas un roman, c'est une sorte de méditation sur la maladie. Alors, c'est un livre extrêmement contemporain, parce que donc il a eu une otite qui a mal tourné en nageant, en plongeant. Il y a un journaliste de Gil Blas, d'ailleurs, qui disait « Tiens, il y a un nouveau Pierre Lotite qui vient de sortir ». Il réfléchit à la position du malade dans un environnement hospitalier et inhospitalier, c'est le cas de le dire. Comment le malade, comment on lui parle, comment lui parlent les médecins, comment lui parlent les infirmières, qu'est-ce qu'il fait dans son lit d'hôpital, à quoi il pense. Donc il a une réflexion à la fois très profonde, puisque faut pas oublier que Werth était un grand lecteur et un grand admirateur de Pascal. Donc il y a toujours une dimension métaphysique dans ses réflexions, et en même temps une très grande distance et une très grande ironie.
L'univers tout entier, plein de formes qui s'entremêlent dans de la suie, s'étend autour de la Maison Blanche comme une forêt pleine de monstres. Et moi-même, il me semble que je suis au centre de la Maison Blanche. Les infirmières me gardent contre les monstres du dehors. Celles qui sont jolies sont des reines qui ont quitté leur royaume pour soigner les blessés. Et celles qui sont laides ont des visages affectueux de chiens vigilants. Et s'il me plaît, je les vais des étoffes qui couvrent les autres femmes. Je les dépouille de la tunique blanche qui leur fait un vêtement si saillant mais abstrait comme un uniforme. J'imagine ma vie avec chacune d'elles et leur vie loin de moi, près d'autres hommes, leur vie dans la vie. Je les devine dans leur joie et leur souffrance, libérées des soins exténuants et monotones qu'elles donnent aux malades. La paresse de mon esprit ne me permet d'autres rêveries que celles où les femmes entraînent. Les infirmières passent, et ma pensée les suit et s'aimante vers elles. Ce n'est pas l'amour, mais cette attention qui le précède. La mort proche lui donne plus de prix, et la beauté des femmes est la seule qui soit facile à contempler. La fièvre et l'agonie même y consentent.
Vis-à-vis du milieu littéraire, Gilles Ray, on s'aperçoit que Léon Werth a eu des positions extrêmement critiques, sévères, voire plus. Si l'on prend l'exemple de ce qu'il a pu écrire sur Gide, par exemple, bon, bien sûr qu'il représentait la NRF et toutes les valeurs qui lui étaient accolées, qui n'étaient pas vraiment celles de Léon Werth, il a été très dur avec lui.
Il a été très dur, ça vient des années 1910, hein. Lui, il écrivait dans les cahiers d'aujourd'hui, donc Léon Werth, et en face, il y avait la NRF. Alors la NRF était une sorte d'institution littéraire qui avait des auteurs, j'allais dire, beaucoup plus polis que ceux qui fréquentaient les cahiers d'aujourd'hui. Et la querelle est véritablement née à partir du moment, donc 1909-1910, quand Charles-Louis-Philippe est mort. André Gide était un ami de Charles-Louis-Philippe, Léon Werth était un ami de Charles-Louis-Philippe, mais Léon Werth n'a pas supporté l'exploitation presque commerciale que la NRF a fait de Charles-Louis-Philippe. Il n'a pas supporté la façon dont André Gide a voulu rééditer des textes de Charles-Louis-Philippe en empruntant de la correspondance personnelle ou en recueillant des passages que Charles-Louis-Philippe avait voulu ignorer. Et ça, pour Werth, c'était une forme de trahison tout à fait inacceptable. Et on retrouve son caractère. Il est absolument intransigeant en matière d'éthique, en matière d'amitié, en matière d'authenticité littéraire. Et ça, c'est une chose qu'il pardonnera jamais à Gide. Alors évidemment, on peut lui reprocher aussi d'avoir négligé le formidable courage intellectuel d'André Gide quand il a écrit Retour du RSS, par exemple, hein, puisqu'il allait dans le même sens que Lonvert, c'est-à-dire cette forme d'antistalinisme absolument évidente. Mais bon, il n'en a pas fait cas.
Mais parmi ces cibles, donc on a mentionné André Gide, vous citez également dans votre biographie une phrase à propos de Claudel où il dit ceci: « Son œuvre ne devrait séduire que les illettrés. Monsieur Paul Claudel n'existe pas, monsieur Paul Claudel n'a jamais existé. »
Oh bah ça c'est le concours de tir sur les pipes dans les foires foraines. Il y avait quelques exemples comme ça, Gustave Le Bon, le sociologue, il y avait Claudel. Et puis Claudel, il ne l'aime pas pour une autre raison, c'est qu'il l'a vu une fois dans une revue Comédia, il avait une photo de lui où il était en uniforme consulaire. Et ça, pour lui, un écrivain qui porte un uniforme avec des médailles, c'est une forme d'anachronisme et en même temps une forme de paradoxe qui lui est tout à fait insupportable. Et puis, il supporte pas le côté penseur catholique, quoi. Hein, ça, c'est ça qui l'énerve.
Oh, il faisait son service militaire.
Ouais.
Puis le photographe n'a jamais voulu mettre le petit cheval. Il ne voulait pas que le petit cheval reste. Il a dit, mais c'est pas sérieux, vous avez compte.
C'est un petit cheval à bascule.
Il a eu beaucoup de mal à se faire photographier, le petit cheval.
Bah oui, parce qu'il a l'air très sérieux dans son uniforme. Et le petit cheval à bascule à côté, bien sûr, c'est un peu... C'est cocasse. Ah oui, ça a été tiré en carte postale.
Oui, mais à l'époque, on tirait beaucoup en carte postale, hein.
Il se moque de l'armée.
Bah, il faut dire qu'il était très antimilitariste.
Oui.
Hein. Ce qui ne l'a pas empêché quelques années plus tard de partir à la guerre.
Il a été mobilisé, mais dans la territoriale, enfin ce qu'on appelait ce que la territoriale, et il est parti volontaire au front. Avec les grandes illusions de faire la guerre à la guerre, à l'époque.
Il avait le sentiment qu'il fallait qu'il la fasse, cette guerre.
Mais ça l'a vite dégoûté.
Ouais, ben ça, on en a la trace dans Clavel.
Oui.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Le parcours de vie de Léon Werth est assez emblématique de ce qu'ont pu être les parcours de vie de la première moitié du XXe siècle. C'est-à-dire assez chahuté et traversé notamment par l'expérience des deux guerres.
L'expérience des deux guerres, alors il est né en 78, donc en fait il a dû connaître les échos de l'affaire Dreyfus. Il a vécu les périodes tourmentées des années d'avant la Première Guerre mondiale, les années 1905-1910 avec le syndicalisme révolutionnaire, l'anarchisme, l'insurrectionnalisme socialiste. Et puis il y a surtout évidemment la Première Guerre mondiale. Bon, on le sait avec les études des historiens, mais on en a encore la confirmation en lisant Clavel Soldat, c'est véritablement la guerre, la matrice du XXe siècle. Hein, tout ce qui suit après provient de là, que ce soit les courants littéraires, le dadaïsme, le surréalisme, que ce soit les courants cinématographiques, que ce soit bien évidemment les courants politiques.
Un vendeur à casquette leur vendit un journal. Il n'était pas question de la mobilisation. Mais ils apprirent l'assassinat de Jaurès. Clavel fut pris d'une colère d'émeute, de cette haine qui d'un coup juge et décide, atteint et frappe impersonnellement les personnes. Un prêtre passa sur le quai, responsable, ce prêtre. Responsable, tous ceux de l'ordre en boîte close. Sera-ce demain la révolution, l'émeute, la justice à nouveau? Sera-ce la guillotine dressée sur les places? Au mur d'une petite gare, une affiche leur apprit la mobilisation générale. et Clavel pensa au fascicule de son livret militaire. Où rejoindre ? Comment être en règle ? Alors ils furent troublés dans leur promenade, mais comme par une brusque convocation à une période de réserve. Tout était interrompu, voilà tout. La guerre n'était encore pour eux que l'obligation d'être au jour et à l'heure aux portes de la caserne désignée. Ils déjeunèrent à Haro. Le vin blanc de l'auberge était piquant.
La guerre de 1914, Gilles Ray, c'est la grande rupture dans la vie de Léon Werth. On voit bien qu'avant la guerre, il avait commencé une carrière littéraire, cette carrière de journaliste. Il était lancé, il avait bénéficié du soutien de Mirbeau. Puis là, soudain, rupture. Alors, c'est curieux parce que donc, il est antimilitariste avant la guerre de 14 et pourtant, il devance l'appel.
Oui, alors ça, c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme en 1914. Effectivement, il était antimilitariste, il était même antipatriote, dans la mesure où il récusait le fait que le patriotisme puisse condenser les valeurs bourgeoises, les valeurs d'autorité, etc., les valeurs de domination de classe. Et en même temps, il part faire la guerre. Pourquoi ? Parce que j'imagine qu'il n'a pas voulu qu'on puisse dire de lui qu'il s'était défilé. Il s'est toujours, par exemple, opposé aux embusqués, à ceux qui, tout en ayant des idées de gauche, venaient voir un ami en lui disant « Tu n'aurais pas quelqu'un au ministère que tu connaîtrais qui pourrait m'aider peut-être ?» Et les mêmes gens qui ont dit ça, après-guerre, donc en sortant indemne, oubliant totalement qu'ils avaient dit ça. Donc c'est une affaire d'honneur. Je crois qu'il y a un événement extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui s'est imposé à partir de 14. Des millions de gens sont partis faire la guerre et Werth pensait qu'il était absolument impossible que lui n'y allât pas. Donc c'est une affaire d'honneur entre lui et lui.
Clavel voudrait abandonner sa compagnie, aller avec eux, ramasser des blessés. Une vérité se révèle à lui sur ce champ. Dans cette nuit traversée d'appels et de gémissements, il y a des blessés et des morts. C'est tout. C'est la seule réalité. La guerre est un mensonge. La guerre ne compte pas. Leur stratégie au service de la diplomatie peut-elle occuper l'esprit d'un homme sain ? Si je disais « Faites de moi ce que vous voudrez, fusillez-moi, je ne me battrai pas !» Mais la guerre à la guerre, n'est-ce pas un abominable sophisme ? Sans doute c'est eux qui ont déclaré la guerre, mais l'esprit de guerre, le vieil héroïsme des images, des beuveries, d'Erix et des manuels scolaires, n'était-il pas en nous aussi ? Quand deux ivrognes se battent, importe-t-il de savoir lequel a frappé le premier ? Ce sont deux ivrognes et voilà tout. Mais je suis de la deuxième escouade de la 18e compagnie. Je marche avec les autres. Je mange la soupe avec eux. J'ai froid avec eux. J'ai sommeil avec eux. J'obéis avec eux.
Mais finalement, Gilles Ray, de cette guerre de 14, on ne connaît que ses écrits, et c'est peut-être bien comme ça d'ailleurs, les deux romans qu'il a consacrés à la guerre de 14, les Clavels, dans lesquels on voit d'ailleurs à quel point il s'insurge contre la petitesse et la mesquinerie, contre le fait qu'un soldat puisse voler une miche de pain à un autre, par exemple.
Oui, il y a des passages comme ça qui sont tout à fait étonnants. Lui-même a failli massacrer un type à coups de crosse parce que le soldat en question avait essayé d'écraser un crapaud. Donc, pour lui, écraser un crapaud dans la tranchée, c'était un acte de barbarie qui ne se justifiait pas. Il essaye de rester relativement lucide dans les moments qu'il traverse. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il prend des notes. Hein. Je note tout de suite ce qui se passe, je note tout de suite ce à quoi je pense, sous les bombardements, après ou avant. Là où c'est intéressant, c'est qu'il écrit tout de suite ce à quoi il pense. Et donc, ça n'est pas une reconstitution a posteriori. Non, c'est un roman qui a été écrit pendant la guerre.
Lorsque paraissent Clavel soldat et Clavel chez les majors en 1919, Léon Werth va recevoir des lettres tout à fait admiratives d'Henri Barbusse par exemple. En revanche, je crois que la majorité des lecteurs n'ont pas nécessairement exprimé la même admiration.
Oui, parce qu'il était en décalage. Il a été un des premiers à dire à ne pas se réjouir de la victoire, à ne pas se réjouir de l'armistice, parce qu'il considérait que la guerre n'était pas finie. Évidemment, elle n'était pas finie. Elle allait continuer. Il pensait que la paix qui arrivait était définitivement contaminée, pourrie par le climat de guerre. Et ça, c'est un discours qui avait du mal à passer, bien évidemment. Regardez les rapports qu'il a avec, la frénésie des années folles ou avec la danse. Il a envie de danser parce que c'est un sportif, c'est un homme qui aime la vie, mais en même temps, il explique que s'il danse, il va danser sur 10 millions de morts. Donc il va avoir cette espèce d'attitude de retrait, d'observation extrêmement lucide, extrêmement intransigeante. Il va se méfier de la frénésie des années folles, de la joie collective, des flonflons. Pourquoi ? Parce que pour lui, une foule joyeuse peut toujours devenir une foule haineuse.
Le bataillon retourne le soir dans les villages boueux sous le ciel gris, dans les villages sans civils, où les magmas de soldats s'épaississent au long des murs, où les voitures régimentaires s'alignent à l'élargissement des places, dans les villages dont on ne sait pas les noms, tous semblables, tous bombardés. Et dans les bois et sur les routes et dans les villages s'élève toujours et s'étale l'odeur de brasier mouillé et de charogne. Après les journées sous la pluie, la colonne sur les routes sûres ou les routes bombardées, la colonne dont l'obus seul accélère la marche, s'en va, mue par le seul idéal du foin. Sitôt le cantonnement désigné, on se jette sur le foin ou la paille des granges sans curiosité de rien. Un soir pourtant, Clavel eut la force de regarder l'arrivée dans la grange. Une bougie dans une lanterne éclaire les soldats qui se déséquipent ou qui se penchent, creusant la paille pour y glisser leur corps. Ombre noire, traits noirs, lueur de boue et d'or, humble mouvement, limite de la fatigue. Il a pensé à Rembrandt. Dans la tiédeur de la paille, son esprit flottait de son corps là à Rembrandt.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées. Pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Si vous voulez voir notre tableau.
Ah oui, avec plaisir. C'est par ici ? On vous suit.
Bon, ça c'est des faits.
Ça, c'est un dessin de Bonnard, ça.
Ah, c'est Bonnard. Votre père avait une grande admiration pour Bonnard. Oui, il l'aimait beaucoup. Hein.
Mais il le connaissait moins que certains autres artistes.
Oui. Oui, mais il l'appréciait
ça,
énormément.
Ça, c'est Lucie Cousturier, c'est moins connu.
Oui, un petit peu quand même.
Quand même.
Ouais. Mais sur Bonnard, il a écrit plusieurs...
deux ou trois albums.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, on continue
si Allez, vous on voulez. Continue.
Je passe devant toujours.
D'accord.
Bon, là, il y a un signe.
Ah, d'accord. Là-bas, l'aquarelle.
Oui, l'aquarelle.
Alors dites-moi, Signac, ça correspondait au goût de votre père. Il a défendu une certaine peinture. Hein.
Oui, les impressionnistes d'abord, et les post-impressionnistes, il les a beaucoup défendus.
Comment est-ce qu'il s'était forgé son goût pictural? Comment est-ce qu'il a, disons, appris la peinture?
Je crois qu'il n'a rien appris. Il aimait la peinture et il a regardé des tableaux. Il les a aimés, hein, mais il n'y avait rien de théorique là-dedans.
Mais sauf qu'il est devenu quand même à un moment un critique d'art reconnu. Et...
tels qu'ils les aimaient, les peintres, et pas... Ça n'avait rien de technique. Ça, c'est Caïx-Roussel.
Oui.
Il y a une... Anecdotiquement, mon père l'avait mis derrière sa voiture, acheté la manivelle dessus. Il ne devait pas y avoir de verre. Et Roussel lui a refait, parce qu'il y avait une déchirure.
Mais Signac et Marquet, alors, sont les deux peintres qui sont le plus présents, hein, dans la collection.
Ah oui, mais c'était quand même aussi les plus proches de mon père, hein, parce qu'ils étaient très proches. Signac, très très proche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Dans la chambre.
Le lit est parfait, comme d'habitude.
Mais si.
Ah bon. Ça, c'est Marval. Jacqueline Marval, qui était de... Il y a beaucoup de ses œuvres à Grenoble.
D'accord.
Et ça, c'est Krauss et Luce. Alors, c'est Luce par Krauss.
Mais dites-moi, c'est une maison-musée.
Des pilons.
Ça, c'est un jardin, celui-là.
Oui.
Oui, c'est fait, là.
Vous avez grandi finalement au milieu de tous ces tableaux. Ça fait partie de...
Ah
bah
oui,
de...
j'ai toujours connu.
Toujours.
Ah bah il y avait Vlaminck aussi, je n'ai pas parlé de Vlaminck.
Oui,
alors Vlaminck, il était très intime avec Vlaminck. Tellement intime. On allait le voir à la campagne. Comme je suçais mon pouce, il voulait me couper le pouce et je n'ai pas aimé du tout. Puis alors il y a eu la tristesse de... la période de la guerre. Donc il est paru.
Oui, Vlaminck a écrit un très beau portrait de votre père, oui, que j'ai lu, qui est très très beau.
Mais enfin, il ne s'est pas très bien comporté pendant la guerre.
Ouais.
Il a fait le voyage en Allemagne. Des artistes. Et...
il s'est trompé.
Oui.
Mais entre eux, oui, il y a eu quand même cette période
beaucoup,
de grande...
Pendant des années.
À la fin de l'année 1918, quelques jours après l'armistice, je rencontrais Léon Werth dans une galerie de tableaux de la rue La Boétie. Je n'eus aucune surprise, c'était l'homme de ses écrits. Il me donna moralement l'impression de quelque chose de solide, la satisfaction de sentir à côté de soi un bon nageur quand le vaisseau est en péril et que le capitaine est devenu fou. On remonta ensemble jusqu'au boulevard Raspail. On causa de peinture, on causa de la guerre. Elle venait de finir. Un jugement sûr, précis, des arguments tranchants, ou, qui parfois tombe lourd comme un pavé, une blague froide, ironique. Il a horreur des façades, des attitudes, du surfait. Devant un manque de franchise, on voit qu'il a mauvais caractère. Et pour les petites combinaisons, les compromissions, il se sent une âme d'entrepreneur de démolition. Des opinions, il s'en méfie, c'est trop facile. Ça se retourne comme une veste. Et quant à ceux qui n'ont que des idées, il les redoute. Il sait que les autres en sont les victimes. Et c'est le bon type, tout près de la vie pour la vie. Werth, sa bécane, sa casquette de pédalard s'embarquant pour faire 50 kilomètres, avec l'allure du médecin de campagne qui se dépêche pour aller voir ses malades. Il aime la route, le bistrot, la guinguette. Parle au patron, prend part pendant une heure aux joies, aux ennuis de la maison. Puis il y a le Werth qui décide en 10 minutes de partir par le rapide pour Anvers ou Marseille, ou Budapest en avion. Le Werth qui musarde dans Paris, qui écoute patiemment, sans vouloir lui faire de la peine, le bavardage d'une femme saoule qui lui raconte ses malheurs en ménage. Il aime le music hall, la chanteuse de genre. Il est plein d'une mansuétude béate pour la chansonnette. Il aime les bras nus, les jambes et la gorge de la danseuse, la lumière blafarde du cirque, le clown et l'écuyère. La mer, les pêcheurs, les marins et les bateaux, il en aime le goût, la couleur et la vie. Il aime grouiller avec le peuple, il aime le café, café chantant, la putain du caboulot dans le faubourg des villes, et le paysage. Pessimiste ? Non, anard, oui. Ceux qui le connaissent savent qu'il a souffert.
Voilà, donc je vous ai préparé sur cette table...
Didier Schulman.
Un échantillonnage... de production éditoriale, comme on dit, dans lesquelles Léon Werth est intervenu, donc à la fois quelques ouvrages, quelques revues, des petits catalogues. Je ne pense pas que ce soit exhaustif. Léon Werth n'est pas quelqu'un qui a, jusqu'à présent, mobilisé l'attention des chercheurs. Et donc la la quête, la glane de ses écrits ne s'est pas faite de façon systématique. Et vous allez voir que l'état un peu, j'ai peine à dire ruiné, mais souvent un peu abîmé d'un certain nombre d'ouvrages, témoignent de ce qu'ils ont sans doute été pas mal consultés à l'époque de leur publication, et puis qu'ensuite ils sont restés dans un certain purgatoire.
Et vous avez une idée, Didier Schulman, de la raison pour laquelle ces ouvrages sont restés en souffrance si longtemps? Vous nous les avez sortis aujourd'hui, donc on a le plaisir là, de les découvrir, mais certains d'entre eux n'ont peut-être pas été consultés depuis des années.
Moi, je pense que c'est il y a une forme d'écriture dans la façon dont Léon Werth parle des œuvres et de l'art, qui pendant des années ne correspondait pas à ce que les historiens de l'art allaient chercher. La deuxième raison, c'est que Werth n'est pas un découvreur d'artistes. Donc, disons, le chapitre Léon Werth de la fortune critique sur Vlaminck, sur Matisse, sur Bonnard, sur Marquet, était considéré comme étant un peu secondaire, résiduel. Et puis, il faut constater que les artistes auxquels Werth s'est intéressé ne sont pas non plus les artistes des grandes avant-gardes artistiques qui ont marqué les 30-40 premières années du XXe siècle. Donc tout ça concourt à sans doute l'avoir un tout petit peu mis de côté. Et c'est un des paradoxes de la posture de Léon Werth à l'égard de l'art, c'est la distorsion qu'il y a entre la modernité, la radicalité, le courage de ses positions politiques. Et puisque l'on peut nécessairement considérer aujourd'hui comme étant un grand classicisme de ses choix esthétiques.
J'ai l'impression, Didier Schulman, que Léon Werth avait une certaine lucidité vis-à-vis de cette activité de critique d'art, parce qu'en fait, lorsqu'il l'évoquait, il se définissait comme un promeneur, ce qui est peut-être indicateur d'un certain point de vue, justement.
Complètement. C'est une chose qui, moi, me frappe beaucoup lorsque je parcours les textes de Werth, c'est qu'il est en effet un promeneur. Il est quelqu'un qui se promène, s'agissant des œuvres d'art, dans les rues où il y a des galeries d'art. Il y a ses habitudes, il entre dans un certain nombre d'échoppes, il voit les tableaux accrochés à la cimaise, il se trouve qu'il a des relations avec un certain nombre d'artistes, on le sent implicitement dans ses textes, mais Léon Werth n'est pas, comme la plupart de ses contemporains critiques d'art, un parcoureur d'ateliers. C'est très rare qu'il fasse mention de visite dans un atelier. Là, j'ai retrouvé un petit texte sur un artiste que je ne connais pas, qui s'appelle Villard, et qui est un compte-rendu de visite d'atelier. C'est le compte-rendu d'une exposition chez Bernheim Jeune en 1921. Et le texte commence par « Je ne sais rien à l'ordinaire de plus redoutable qu'une visite à l'atelier d'un peintre. » Donc ça dit d'entrée de jeu la relation que Werth entretient aux artistes, qui est une relation de distance, c'est-à-dire qu'il peut avoir une camaraderie absolument formidable, ce qu'il a pour Marquet, je veux dire, Marquet et lui, c'est vraiment des potes, mais ça ne se transmettra pas dans ses écrits. Ce dont il parle, c'est de la peinture, c'est des œuvres. Ce qu'il transmet, ce sont des sensations que lui inspire la contemplation des œuvres et la lecture du monde et de la nature qu'il en fait. Mais là, entre guillemets, la psychologie de l'artiste, l'artiste dans son contexte d'atelier, tout ça, la biographie de l'artiste, tout ça, ce sont des choses qui n'arrêtent pas, qui n'intéressent pas. Il y a une mise à distance de l'artiste fabricant, de l'artiste artisan, qui est très intéressante et qui est assez rare. Pour moi, d'abord, c'est pas un critique d'art Werth. Justement pour ça, parce que finalement, il a écrit ce livre qui s'appelle Quelques peintres. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que combien il y a de peintres dans l'entourage de l'intérêt que Werth porte aux œuvres d'art. Une pas, une douzaine, une quinzaine à peine, et dont des vivants encore moins, si vous voulez. C'est surtout limité à un cercle très très étroit auquel il est fidèle absolument toute son existence. Alors que son existence, c'est quand même contemporaine de l'émergence des mouvements d'avant-garde les plus foisonnants, et il n'y fait même pas référence, ou très très peu.
C'est comme s'il ne les voyait pas. C'est curieux, mais parce qu'on a l'impression...
Il les voit quand même, ouais. Mais c'est, tout ça est d'une distinction et d'une discrétion absolue. C'est-à-dire qu'il cite souvent Picasso, surtout à la fin, mais il n'a jamais écrit vraiment de texte sur Picasso. Il ne s'y risque pas. C'est une très très belle leçon d'écriture sur les œuvres. C'est-à-dire que vraiment, il n'entre dans le travail de l'écriture sur une œuvre que s'il est sûr de son coup et quand on lit son texte, on se rend compte qu'il est rarement sûr de son coup. Il est d'une humilité face à l'œuvre en s'appuyant sur une langue qui est une langue d'une précision et d'une perfection et d'une évocation tout à fait exceptionnelle.
juin 1942. On m'écrit de Paris que Vlaminck a publié un article contre Picasso, que dans les circonstances présentes, cet article est une lâcheté. J'ai beaucoup écrit sur Vlaminck. Je ne regrette pas de l'avoir défendu contre les petites natures. Il semblait si plein de santé. Où est-il le temps où je disais que ces nuages étaient bousculés à grands coups de pied dans le cul par un père éternel en chandail ? N'aurais-je pas cru, naïf, que le chandail suffit à remplacer toutes les vertus de puissance et de simplicité ? Sa peinture fut souvent bagout de peintre. Avec quelle adresse il a utilisé une période de Cézanne brève et peu connue, rugueuse et maçonnée, dans le gris. Je résistais, je le lui ai dit à lui-même, à ses tableaux récents. Brillants, astiqués, trois coups de brosse et le coup de fion. Ainsi, les cireurs marseillais transforment en neuve une vieille paire de chaussures.
Mais si l'on prend, Didier Schulman, l'exemple de quelques-unes des monographies que vous avez sorties là, je vois qu'il y a celle sur Bonnard, Marquet, il y a donc Vlaminck. En quoi le regard de Léon Werth sur ces peintres-là apporte quelque chose de singulier et d'original dans l'analyse des œuvres ?
Si vous voulez, quand on parcourt les textes, même comme ça, très, très rapidement, en balayant, on se rend compte d'une chose qui est assez essentielle à l'époque, c'est que il inscrit sans doute ces artistes dans l'histoire de l'art, mais il a une conception de la modernité telle que il les met en rupture avec les grandes figures classiques. Mais c'est très rare, si vous voulez, qu'il cite des artistes ou des périodes.
Il a des interrogations intéressantes.
Oui.
Et là, par exemple, sur Bonnard, Bonnard peint-il le monde, demande-t-il. Bon, il répond, je crois plutôt qu'il assiste à la naissance du monde. Bon, voilà, c'est peut-être ce...
Oui, c'est une façon d'interroger la peinture qui est quand même très, très, très marquée par cette période. Mais disons qu'il a une... Une façon de l'ouvrir et d'y répondre en évoquant des effets de quotidienneté, de senti, de vécu, beaucoup plus qu'en évoquant une inscription dans une histoire, dans une académie. Et c'est en cela qu'il est peut-être assez utile à l'histoire de l'art aujourd'hui. Et d'une certaine, il n'y a jamais de théorie, si vous voulez. Voilà, c'est quelqu'un qui, alors à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, en 45, quand il écrit La peinture et la mode, il fait référence beaucoup plus là à la fin à la théorie de l'art. Alors cet ouvrage est très très ruiné.
Ah, c'est celui-ci, La peinture et la mode. Voilà. D'accord. Qui est son dernier
ouvrage sur l'art. Ouais. Et là, il cite même carrément des textes qu'il trouve dans les cahiers d'art, dans un certain nombre d'autres publications, mais c'est la première fois où il fait une sorte de bilan. Il a un rapport de il a un rapport de reportage à la peinture, de reportage intelligent.
ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers.
Archives, correspondances, tableaux, albums photos, Claude Verte poursuit sa plongée dans la mémoire paternelle.
Ça, c'est la maison du Jura où il était pendant 4 ans.
Alors ça, c'est la maison où il a écrit des positions.
Voilà.
Oui, c'est ça. Qui sont notre grand texte sur la guerre.
Ah, oui.
Après Clavel.
Mais l'autre guerre.
Alors celle-ci, il ne l'a pas faite, par contre.
Non, pas du tout. Ma mère l'a faite, en sens qu'elle a fait une résistance très importante. Mais là, cloîtrée dans ce truc-là. Puis mon père n'était pas assez pratique. Il serait fait piquer tout de suite. Enfin, ma mère en a fait beaucoup.
Donc il a préféré être témoin.
Oui, et puis un peu réfugié. Et puis, il a été se déclarer à Lons-le-Saunier, à la préfecture.
9 juillet 1941. Je vais à Lons pour y déclarer qu'au terme de la loi du 2 juin 1941, je suis juif. Je me sens humilié. C'est la première fois que la société m'humilie. Je me sens humilié non pas d'être juif, mais d'être présumé étant juif d'une qualité inférieure. C'est absurde, c'est peut-être un défaut d'orgueil, mais c'est ainsi. Ainsi, le maréchal et M. Xavier Vallat me contraignent à me réclamer d'une patrie juive à laquelle je ne me sentais pas liée. Une patrie, une seule, c'est parfois déjà encombrant. On n'y pense pas, on n'en fait guère cas. Mais si un étranger prétend m'humilier à travers cette patrie, je suis blessée et je ne sais plus si c'est cette patrie ou moi-même que je dois défendre. Mais la plus simple dignité m'oblige à m'identifier avec elle. Je fis ma déclaration à la préfecture. Je lançai le mot « juif » comme si j'allais chanter la Marseillaise.
Déposition, le journal tenu par Léon Werth de 1940 à 1944, est un texte absolument essentiel, Jean-Pierre Azéma, et ce à plusieurs titres. J'ai envie de dire dans un premier temps qu'il est exemplaire d'un point de vue littéraire. C'est une plume absolument redoutable.
On est frappé par... D'abord, la très belle tenue de cette prose. Il n'y a quasiment aucune scorie, bien entendu. Il a été un très, très bon élément de la méritocratie républicaine. Il a été couronné donc par un premier prix de philosophie au concours général, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est un monsieur qui a été aux écoles, comme on dit, qui sait le français, qui sait parler le français, qui en use, qui n'en abuse pas trop. Et c'est une langue très drue. Et ce qui fait, je pense, la beauté singulière de cette langue, c'est la férocité du bonhomme. C'est-à-dire que les portraits ou les phrases assassines qu'il balance très régulièrement sur ses chers confrères, si j'ose dire, ou contre ceci, contre cela, contre des notables, ça part, boum. Bon, mais il y a chez lui un souci de ne rien laisser traîner et de nous donner une prose tout à fait aboutie, sans fioritures. C'est un monsieur assez déflationniste. Il n'y a aucune inflation, au contraire, il n'y a aucune envolée lyrico, larmoyante, ça, non.
17 octobre 1940. Les Chateaubriand, les Drieux-La Rochelle travaillent avec les Allemands. Même défense que pour le gouvernement de Vichy. Si l'Allemand avait face à lui une France unanime, dressée dans le dégoût et dans la haine, il ne serait point embarrassé. Il adopterait une politique rectiligne et brutale. Bardé de fer, armé d'une impénétrable cuirasse, il aurait à sa merci un adversaire désarmé et nu. Mais les Chateaubriand, les Drieux, obligent l'Allemand à quitter sa cuirasse, à laisser son épée dans le porte-parapluie. Un Allemand sans armes, ce n'est rien. On ne sait point assez ce que la brutalité allemande dissimule d'incertitude. L'Allemand n'a point de forme, l'Allemand n'est pas dessiné. Son armature n'est qu'une orthopédie. S'il consent à la discussion, il est perdu. Si Polyphème veut qu'Orphée l'admire pour son sens de la poésie, Polyphème est perdu.
Déposition est un texte important, Jean-Pierre Azéma, parce qu'il couvre toute la période des années noires, c'est-à-dire c'est un regard dans la durée et qui, de surcroît, se promène d'un registre à l'autre. Je veux dire par là que, bien évidemment, il est question de Hitler, de Pétain, de Laval, mais aussi du marché du coin, de Bourg-en-Bresse, du train qui a déraillé et des paysans sur le marché.
Alors vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects. D'une part, ce qui se passe dans le précaré franco-français, et en même temps, il s'occupe de manière très précise de ce qui se passe en dehors, dans le vaste monde, sur l'échiquier mondial. C'est rare qu'on puisse avoir les deux à la fois. C'est un monsieur très perspicace, qui aime voir et ensuite qui aime raconter, de prendre des notes. Et ça c'est extrêmement intéressant. D'autant plus qu'il se promène effectivement de juillet 40 à 25 août 44, puisque la dernière petite annotation, c'est de Gaulle descendant les Champs-Élysées. Mais l'essentiel se joue, et ça c'est très important pour nous, car ça nous échappe, cela, si vous voulez, de manière très concrète, ce qui se passe dans un bourg, mettons, du Jura, de zone sud, donc dans un premier temps la zone non occupée, qui s'appelle Saint-Amour, où il a une maison, on ne disait pas secondaire à l'époque, on disait une maison de vacances, depuis longtemps. Il s'y réfugie parce que juif. Juif israélite, juif français, de nationalité française. Mais il a bien compris que les Juifs de nationalité française risquaient aussi d'avoir des ennuis majeurs. Alors, il voit, et puis il connaît les paysans, il va sur les marchés, il va chercher ceci, il va chercher cela. Et là, on a une notation très précise, il les connaît bien, et il suit leur évolution. Donc, c'est un monsieur de terrain, effectivement, qui note très très soigneusement, tout en lisant énormément la presse sous domination vichiste ou à Paris de domination collaborationniste. Il écoute le maximum de la radio. Bien sûr, c'est la propagande, n'importe quoi, mais il récupère un certain nombre d'éléments et il peut mêler les deux et essayer de comprendre s'il y a ou non corrélation dans l'évolution de ce qu'on peut appeler le français moyen.
On est saisi, Jean-Pierre Azéma, par la lucidité de Léon Werth. Il voit clair et il voit clair tout de suite. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, il était peut-être facile sur Pierre Laval d'avoir une lucidité immédiate, mais sur Pétain, il ne s'est pas trompé. Tout de suite, il voit clair.
Oui, mais parce que Pétain, il déteste. S'il y a un bonhomme qu'il déteste, c'est Pétain. Bon, Laval est Laval, il a fait un pari, etc. Pétain est dans le fond la clé de voûte du système. C'est lui le grand responsable. Et donc, c'est Pétain qui essaye d'aligner. Et alors, il le déteste. Il dit que c'est une sorte de huburoi. Il est très, très, très violent. Il ne lui passe rien. Bon, D.A., Laval, plus embarqué de la collaboration, bon, il dit, ils seront jugés. Mais ce Pétain-là, voilà, il faut le dénoncer, car c'est lui le grand responsable. Alors, ce qui joue chez lui, c'est que il déteste les notables d'une manière générale, il déteste les maréchaux en particulier, et il déteste tous les officiers d'active, ou presque, à quelques exceptions près, parce que il a fait la guerre de 14. Et pour lui, Pétain est une gloire totalement usurpée et couronne justement les innombrables mensonges, à ses yeux, proférés par les officiers d'active, faisant oublier le chemin des dames, etc., etc., et tout ce qui s'est passé. Pétain, c'est ça pour lui, d'abord. Laval, au moins, on connaît, on voit, bon, ta-ta-ta, il dit, bon, etc., etc., il est roublard, il est ceci, il est cela, bon.
22 juin 1942. Le bourg est plus nerveux qu'une ferme isolée. Ce matin, la mère du petit berger qui est venue pour aider à rentrer les foins nous dit, grave et triste, « Les Allemands ont pris Tobrouk et le président Laval parlera ce soir. Il faut espérer quand même. » Elle met sur le même plan la prise de Tobrouk et le discours de Laval. Elle sent que l'annonce d'un discours inattendu de Laval est aussi gros de menace qu'un succès militaire de l'Allemagne. Nous redoutons que Laval n'annonce ce soir on ne sait quoi d'irrémédiable, de définitif. J'ai décidé d'aller ce soir entendre Laval à la ferme. Je vais à Laval avec patience et dégoût, comme on va vers un mauvais lieu.
De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. On parle souvent d'Europe. C'est un mot auquel en France on n'est pas encore très habitué. On aime son pays parce qu'on aime son village. Pour moi, Français, je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit avec d'autres consentir d'immenses sacrifices et elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse. Pour l'acheter dans la bataille, elle va la chercher à l'usine et au champ. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
Il fait effort pour ne pas enfler le ton, ne pas vibrer, pour être simple. Mais les airs sont gras. Il rentre sa vulgarité comme on rentre son ventre. Et cette retenue, cette décision de parler nu et sobre, l'oblige à sombrer la voix, comme un vieil acteur de mélodrame.
Je sais. Que ce n'est jamais en vain qu'on fait appel à la raison et à la générosité des ouvriers de France. C'est vers eux que maintenant je me tourne, car c'est d'eux, pour une large part, que va dépendre désormais le sort de nos prisonniers. S'ils répondent à mon appel, s'ils acceptent d'aller travailler en Allemagne, je sais qu'ils y trouveront bon accueil, qu'ils toucheront d'abord une prime de séparation, des salaires élevés, et qu'ainsi ils assureront la vie de leur famille, auquel ils pourront envoyer mensuellement une partie importante de leurs gains.
Son discours est clair. Un seul thème. Aller travailler en Allemagne. Trop clair pour l'effet attendu. Car il viole le sentiment de tout un peuple. Collaboration, ordre nouveau. Ce n'était que termes abstraits, vocabulaire politique. Mais Laval intervient en personne, en chair et en os. Ce « je souhaite la victoire de l'Allemagne » anéantit tout argument, donne un choc. On n'entend plus, on ne retient rien d'autre. On savait que Laval souhaitait la victoire de l'Allemagne, on n'eût pas cru possible qu'il le dit aussi brutalement et publiquement. « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». On n'avait jamais entendu cela, car l'antipatriote abstrait du passé se mettait au-dessus des patries, il était neutre, il ne souhaitait rien. Le discours de Laval est trop gros pour la finesse moyenne du peuple français.
On est étonné, Jean-Pierre Azéma, de trouver dans des positions à la date du 10 décembre 43 une mention de Staline comme chef des troupes victorieuses, comme le maréchal Staline, quand on sait tout de même que Léon Werth sera parmi les premiers à dénoncer les abus et les dérives du stalinisme.
Oui, c'est un peu, alors je ne vais pas faire la comparaison, c'est un peu dans le fond ce qui va se passer avec Charles de Gaulle. Alors Staline, vous avez raison, c'est beaucoup plus net. Il a salué la révolution d'octobre 17, parce que c'est un libertaire, hein, fondamentalement, ce Léon Werth. Il l'a salué, il pensait que c'était la Russie des soviets, que ça allait changer de manière fondamentale, que le socialisme auquel il était attaché, et auquel il restera, sur une mesure attachée, bon, concrètement, était en train de s'enraciner. Donc, vive la révolution bolchevique, peut-être pas vive Joseph, puisque Joseph Staline n'arrive que plus tard. Enfin, vive les soviets. Donc, sans être communiste, on pourrait dire qu'à l'époque, il a été volontiers compagnon de route. Et puis, petit à petit, a filtré le fait que c'était devenu un régime tout à fait totalitaire, et en particulier les grands procès de Moscou. Et puis, il y a eu Victor Serge, donc, et puis il y a eu Trotsky. Et à ce moment-là, Staline... Terminé.
10 décembre 1943. J'ai à peu près complètement oublié le Staline d'avant la guerre. Le Staline qui, pour les uns, était l'héritier de Lénine, pour les autres, le thermidorien. Et j'ai presque complètement oublié le Staline signataire du pacte germano-russe. Je ne sais plus voir en Staline que le chef des troupes victorieuses qui combattent contre le nazisme. Il y a quelques semaines encore, j'éprouvais un choc d'étonnement quand on nommait Staline le maréchal Staline. Aujourd'hui, je ne souris même pas. Staline est pour moi un vrai maréchal, le maréchal de la démocratie, le maréchal de la liberté, l'organisateur de la victoire de la liberté.
Ce que Léon Werth déteste peut-être par-dessus tout, Jean-Pierre Azéma, c'est cette France endormie, cette France en pantoufles qui attend que les Anglais, les Allemands ou les Russes viennent la libérer. Et cette France, elle est incarnée, pour Léon Werth, elle est incarnée par la petite bourgeoisie.
Oui. Alors, il déteste, d'une manière générale, les bourgeois, comme il les appelle. Bon, lui est issu de la petite bourgeoisie, mais bon, c'est pas aucune importance de cela. Il déteste les bourgeois, c'est-à-dire les notables assis, comptant d'eux, dans des fauteuils cossus, etc. Ça, il déteste. Il a toujours détesté. Côté libertaire, toujours chez lui. Hein. Bon, pas aimé. Alors, il dit, mais il n'y a pas que les bourgeois, il y a aussi les paysans qui les gratinent beaucoup. Ils disent, ils sont tous en train de mettre des petits drapeaux sur les cartes pour savoir où sont les forces soviétiques ou ceci et cela. Et eux ne font pas grand-chose, ils hésitent à sauter le pas. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'a fait le camarade Léon pendant la guerre? Alors c'est peut-être un très mauvais procès à lui faire, mais dès lors qu'il fait un procès aux autres, et il le fait de manière systématique, celle qui, enfin, je ne vais pas dire crapahute, mais qui fait tout le boulot, c'est Suzanne, sa femme qu'il aime beaucoup, lui, il bouge pas jusqu'en mars 44. Alors il lit. Il lit « Cahier de témoignages chrétiens », on sait qu'il est de sympathie, il lit ceci, il lit cela. Il n'y a pas une esquisse de dire... Bon, il y a peut-être quelque chose. Alors, il a 62 ans, et on ne voit pas prendre une mitraillette Sten et commencer à monter dans le Jura, dans quelques maquis, et à descendre quelques éléments de la Wehrmacht ou à faire sauter quelques trains. Bon, ce qui serait, à ses yeux, tout à fait ridicule. D'ailleurs, il le dit, qu'il n'est pas en âge de faire ça. Mais il ne cherche pas trop. Il reste sur, je ne vais pas dire son Aventin, mais il reste un petit peu dans son honorable chalet. Sauf quand il va à Paris, alors là, dans le fond, il est assez content. Il participe un petit peu indirectement par son fils interposé en tous les cas, par Suzanne, sa femme, j'ai dit qu'il aimait beaucoup. Et donc, il voit arriver deux Anglais dans, je ne vais pas dire son sofa, mais dans son, sur ses chaises. Alors, il les voit, il les bichonne un tout petit peu. Bon, il a l'impression de participer, dans le fond, à un réseau d'évasion, comme il y en a eu un certain nombre. Alors, j'ai l'impression que ça lui suffit, quoi. Mais il a été un spectateur engagé, là. Bon, alors que dans le Jura, bon, il a de qualité, Léon Werth, mais c'est un spectateur perspicace. Engagé, c'est quand même beaucoup dire.
Il est spectateur contemplatif, mais il se pose aussi la question, et ça on en trouve la notation à plusieurs reprises dans des positions, précisément de ce que signifie cette posture qui est la sienne d'observateur et de témoin. Alors aujourd'hui, c'est ce qui nous est précieux, précisément. Oui. C'est le fait qu'il ait été témoin. Mais il interroge cette position.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est intéressant.
Non, très intéressant. Et en plus, si vous voulez, il ne raconte pas d'histoire. Il ne se raconte pas d'histoire. Voilà, il dit, voilà, c'est ça, c'est ci. Et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que ça rend ce récit, cette déposition particulièrement crédible. Il n'y a pas rien de dire, dans le fond, j'ai vu machin, j'ai comment... Non, rien. Sauf, encore une fois, à Paris. Non, pour ça, c'est bien, c'est un monsieur qui est, avec lui-même, irréprochable dans la manière dont il se présente et la manière dont il a pu fonctionner pendant 3 ans dans ce Jura.
17 avril 1944. Beaucoup de collaborateurs ne le sont point à l'état aigu. Ils détestent le communisme, les insurgés, les pétroleuses, mais n'ont aucun souci de l'Europe d'Hitler ou de la Valdéa. Ce qu'ils veulent, c'est leur tranquillité. Ils ne sont nazis ni par doctrine, ni par passion. L'Allemagne nazie de 1939 brûlait de nazisme. Ils ne brûlent pas. Ils acceptent Hitler et le nazisme. Mais leur Hitler est vidé d'Hitler, leur nazisme est vide de nazisme. Ils se sont fait un nazisme stérilisé. Tous les faits de cruauté, de sadisme qu'on peut leur citer, ils les annulent, ils les refoulent. Les faits tombent au fond d'eux-mêmes, ils forment un précipité qu'ils prennent bien garde de ne pas remuer. Ils se sont fait un nazisme en pantoufles. C'est la masse des collaborateurs mous. Mais il y a aussi les résistants mous. Ils espèrent la délivrance par évaporation des Allemands, et un débarquement en pantoufles.
Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
La fantaisie, la souriante galéjade réapparaît avec une séance à l'Académie. Séance au cours de laquelle Alibert est reçu par Tramel.
Mon cher Alibert, c'est une grande joie et un grand orgueil pour moi de vous recevoir ici, à l'Académie française, la maison de Richelieu.
Bravo.
Bravo. Bravo. Bravo.
On redécouvre aujourd'hui Philippe Solers, Léon Werth et son œuvre. Il est tombé dans un oubli absolument total depuis sa mort, depuis 50 ans. Comment vous-même avez-vous fait la découverte de ce personnage?
Tout simplement parce que Viviane Amy m'a contacté un jour, m'a demandé de lire ce qu'elle venait de publier. J'ignorais complètement cet homme. Et je me suis très vite demandé pourquoi, un, je ne le connaissais pas, pourquoi il n'était pas venu dans mon information, pourquoi, en effet, il y avait eu cet oubli. Mais disons les choses carrément, c'est de la censure. Et donc la question est éminemment politique. À partir de là, je découvre ce livre extraordinaire qui s'appelle « Déposition » et je tombe sur un document extraordinaire dont personne n'a jamais parlé, et pour cause, puisqu'il s'agit d'un placard absolument bétonné de l'histoire de ce pays. Vous connaissez ma théorie des trois placards, il y en a trois, sans remonter jusqu'à Napoléon qui est fortement mis en question aujourd'hui. Sans remonter non plus à la Révolution française ou au-delà, en remontant les millénaires. Mais enfin, l'histoire de France est dans une sorte de tourbillon, de crise d'identité profonde. On est en train de vous expliquer que la colonisation a eu ses bienfaits, on peut réécrire l'histoire. Tout ça est dû évidemment à l'effondrement du bloc communiste. Et c'est intéressant de voir que Werth est mort justement encore dans la période la plus stalinienne de l'histoire, en étant combattu de ce côté-là par des staliniens ou néo-staliniens ou parastaliniens notoires. On va vous expliquer tout ça de plus en plus et puis bientôt on en arrivera à vous dire que la collaboration n'a pas eu que des effets négatifs. C'est incessamment sous peu, je vous l'annonce ou vous le prophétise. Pourquoi censure sur Werth? Pourquoi ce bétonnage, mais incroyable, mais très intéressant pour l'histoire de France? Il a tous les défauts par rapport à une vision falsificatrice de l'histoire. Premièrement, il est de tempérament visiblement anarchiste. Deuxièmement, c'est un des premiers textes par rapport au colonialisme, c'est Cochinchine, qu'il écrit dans les années 25-26. C'est quand même le premier témoignage de ce qui se passe lorsque la France occupe des pays de cultures différentes. Anarchiste, pourquoi? Il n'a pas aimé la guerre de 14-18. Tout se passe en France par rapport à la guerre de 14-18, vous vous en doutez, n'est-ce pas? Chaque village a son monument aux morts et nous avons eu affaire à un héroïsme particulier, c'est-à-dire à une boucherie sanglante. Qui fait que ce n'est que très récemment, et du fait de Lionel Jospin, qu'on a réhabilité, vous vous êtes rendu compte de ça, qu'on a réhabilité les gens qui avaient été réfractaires ou mutins pendant la guerre de 14-18, qu'on a exécuté en masse. Il y a eu plus de 2000 exécutions. Vous aviez encore récemment une photographie publiée par Le Monde, l'unique photographie d'exécution de mutins réfractaires de la guerre de 14-18 qui ne voulaient pas aller au combat. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que ces offensives étaient de la pure boucherie, ne servaient à rien et qu'il y avait des centaines et des milliers de morts pour rien, dans la boue. Alors, vous avez là Clavel soldat, etc. C'est Werth aussi, donc il ne marche pas dans cette héroïsation de la boucherie. Très mauvais dossier déjà. Deuxième dossier, très mauvais, le colonialisme n'est pas la panacée universelle, nous ne répandons pas la civilisation de par l'univers. pas bien ça, c'est pas un bon français. Et puis va arriver alors l'événement, c'est-à-dire la guerre de 39 et l'occupation de la France. Là, c'est ce livre qui s'appelle « Déposition », très beau titre, qui est absolument accablant, magnifique. Pourquoi ? Parce que c'est un esprit froid, lucide, rationnel, très sensible, qui tout simplement ne marche pas. Or, je vais vous sortir des documents qui est que tout le monde a marché. Pratiquement. Moi, je suis d'une famille anglophile très anti-pétainiste, donc ça ne marchait pas dans mon éducation, mais je cherche encore à la bougie quelqu'un comme moi dans ce pays. C'est pas vrai. Tout ça est menti, tout le monde devient gaulliste rapidement, et vous avez alors le placard là, de la rentrée, c'est-à-dire que finalement, après avoir été pétainiste, tout le monde devient gaulliste ou tout le monde devient plus ou moins communiste. Hein. Et puis entre les communistes et nous, il n'y a rien, comme a dit très bien Malraux. Il n'y a rien. Si, il y a quelques individus, par exemple Werth, qui va d'ailleurs être très pénalisé pour ne pas marcher dans la propagande stalinienne de l'époque, hein, attaqué par Simone de Beauvoir, par exemple. Alors, Déposition est un livre absolument extraordinaire, dont je ne m'étonne pas qu'il soit absolument censuré, qu'il m'ait fallu autant de temps pour le découvrir. Parce que, si vous voulez, je peux faire des parallèles avec des gens très, très bien. Très bien. Par exemple, je vais prendre le journal de Gide en 40-42, ou Martin Dugard, ou la NRF, enfin des gens tout à fait moraux, qui en principe auraient dû avoir le goût de ne pas marcher dans cet avilissement, dans cette bassesse constante, à la fois visuelle et auditive. C'est une question de goût, d'instinct animal presque. Vous allez me dire, circonstance aggravante, évidemment, Léon Werth est juif, bien sûr, et c'est même extraordinairement pathétique de voir avec quelle d'ailleurs noblesse il va se déclarer au moment où il fallait se déclarer comme juif en France, selon les lois. Bon. Donc il dit, j'ai dit juif, comme ça, en me présentant comme si j'allais chanter la Marseillaise. Tout ça est extraordinairement pénible. L'essentiel, c'est de voir comment il perçoit. 1. Pétain. 2. Laval. Les discours, l'apparence physique, et il est dans le Jura, je crois, dans son village, la façon dont les gens se comportent par rapport à tout ça. C'est-à-dire l'extraordinaire mauvais goût, l'extraordinaire bêtise qui surgit brusquement d'une population qui, quand même, au XVIIIe siècle, était appelée la grande nation, qui était celle de l'esprit. Là, on tombe d'un seul coup, d'une façon effarante, très, très bas, mais plus que bas. Dans la bassesse du bas. C'est idiot, c'est des clichés, c'est de la propagande, avec des voix surtout. C'est évident, puisque nous sommes à la radio, il faut repasser les voix de cette époque. Il faut entendre comment ça parle. C'est absolument... Oui, c'est de 1940, hein, oui, le jury Goncourt, c'est le maréchal Pétain, vous voyez, c'est effarant. Les Français étaient à 80... Allez, combien vous dites? 95%, voilà. Ils ont aimé ça. Puis après ça, ils ont aimé d'autres choses. Et ils ont été donc collaborateurs. Ça, c'est le mal français profond, parce que c'est ça dont on ne sort pas, parce que vous êtes toujours dans cette histoire. Mitterrand, Papon, Bousquet, etc. C'est sans cesse où ça ne passe pas, ça ne s'avale pas, ça ne décline... Pourquoi ? Parce qu'il y a là quelque chose d'absolument, physiologiquement, pratiquement inguérissable. C'est ça qui est étrange. La France est ce pays, seul, hein, attention, qui a ce problème-là. Parce qu'au fond, disons les choses, les Allemands, évidemment Hitler était un monstre, c'est bien clair. Mais enfin, tout compte fait. Ils peuvent être assez fiers de cette armée qui envahit l'Europe. Fiers. Horriblement fiers. Les Italiens ont avalé Mussolini comme une petite pilule gastrique. De toute façon, il y a le pape, donc ça protège. Et quant aux Espagnols, eh bien, Franco leur a réglé un problème qui les a conduits à la monarchie. Quant aux Anglais, j'en parle pas, c'est quand même eux qui ont gagné la guerre entre 40 et 42 dans la bataille de la Manche. Grand épisode militaire. Vous voyez si un Français de cette époque, dans ses parents, dans ses grands-parents, etc., a été ou non sensible à la résistance anglaise. C'est mon cas. C'est la raison pour laquelle je suis seul dans cette affaire et je lis Léon Vert, c'est-à-dire je vois pourquoi, en effet, la population dans son ensemble a accepté tout ça, c'est-à-dire des choses invraisemblables, absolument... C'est le mauvais goût, comprenez, hein, comme l'a dit Stendhal d'une formule définitive, le mauvais goût conduit au crime. Eh bien, ça a été ça, ça a été le mauvais goût et le crime. Si vous avez une mémoire aussi difficile à débloquer, c'est pour ça qu'il faut lire Werth. Il faut regarder comment était, parce que un type qui est lucide dans une période de folie, ça n'a pas de prix. Voilà pourquoi c'est passionnant et ça ne fait que commencer. Et il faut continuer à parler de lui et de lui dans cette situation extraordinairement solitaire.
Ce qui est tout à fait remarquable, Philippe Solers, quand on observe la trajectoire de Léon Vert, c'est la remarquable continuité. L'antimilitariste au moment de la guerre de 14,
Spinoza.
L'anticolonialiste, un des premiers à dénoncer le stalinisme.
Oui,
jusqu'au
ça.
Bout, il a tenu droit.
Ben oui, donc il a tout le monde contre lui. Voilà, parce que si vous ajoutez les militaristes, les colonialistes, les collaborateurs et les staliniens, ça fait pratiquement tout le monde, hein, 98%, voilà, nous sommes d'accord. Donc, un pays qui a tout ça en magasin, si je peux dire, ou plutôt sur l'estomac, ou plutôt dans l'inconscient, dans le refoulement, ne peut pas vraiment accepter qu'il y ait eu un témoin. Alors, ça, le témoin, c'est lui.
Une vie, une œuvre, Léon Vert, avec Jean-Pierre Azéma, historien, auteur de l'édition annotée du journal de Léon Vert, Déposition, paru aux éditions Viviane Ami. Gilles Ray, journaliste, auteur d'une biographie de Léon Vert, publiée sous le titre L'Insoumis, Léon Vert aux éditions Viviane Ami. Didier Schulman, conservateur du patrimoine et chef du service de la bibliothèque Kandinsky au centre Georges Pompidou. Philippe Solers, écrivain, son dernier roman « Une vie divine » est paru aux éditions Gallimard, avec Claude Vert, le fils de Léon Vert et sa femme Sylvaine, et avec nos remerciements à Anne-Marie Chambenois et Stéphanie Gelfi de la médiathèque d'Issoudun. Texte lu par Sophie Bourrel et Gilles Davidas. Archivina Martine Auger, prise de son Patrice Klein, Yves Lehors et Laurent Lucas, mixage Noélie Pellegrin, réalisation Gilles Davidas, une émission de Catherine Poinbert. Thank you.
Une vie, une œuvre, Léon Werth, une émission qui était diffusée une première fois le 22 janvier 2006.